Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 7h07, on est de retour. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous en ce 19 décembre 2020. Le week-end des experts, le jardin. Tout à l'heure, ce sera la forme la santé avec Christian Requia. Raphaël Grabi me rejoindra entre 9h et 10h pour la vie numérique. Et là, dans l'immédiat, c'est Christian Pessé, la maison.
Oui.
Rebonjour Christian.
Rebonjour mon cher François.
Alors Christian, vous le savez, nous vivons nos dernières heures. Pas de vie, hein, parce qu'on va continuer
bonheur,
à vivre. Heureusement, de bonheur. Mais il y aura après encore du bonheur, attendez.
Mais bien sûr.
Il y en aura plein. Et oui, puisque je vous rappelle, ce week-end des experts touche à sa fin. On vit nos dernières émissions, puisque à partir de début janvier, vous retrouverez une antenne commune entre BFM TV et RMC, entre 6h et 10h. Voilà, une page qui se tourne. Ça fait 19 ans, Christian. Hein,
ça fait 19 ans, c'est quand même une tranche de vie.
Vous rendez compte
nous avons le bonheur de vous avoir, parce que vous me supportez, mais nous, moi, c'est un tel bonheur de vous rencontrer.
Il est tellement politique, ce Christian Pessé. Formidable. Vous avez une carrière politique, non?
Oui, un petit peu, j'en ai une.
Je l'ai senti.
C'est vrai.
Évidemment, on plaisante. C'était un vrai plaisir de vous accompagner durant toutes ces années.
Et il fallait une bonne santé, parce que en 19 ans,
c'est vrai,
je n'ai pas manqué une émission pour raison de santé. J'aurais pu être malade, mais j'espère que ça va continuer, quoi.
Écoutez, vous pouvez venir si vous voulez, même encore le samedi et dimanche, vous passerez pas l'antenne, mais vous pourrez quand même vous réveiller tôt,
n'est-ce
pour
pas
voir si vous tenez toujours le coup.
Mais je ne quitterai pas tout à fait. Hein,
mais non. Que... Alors, mais bien sûr. Alors, c'est ça aussi la chose importante, c'est que évidemment notre expérience sur RMC se termine, mais vous avez d'autres activités, oui, hein, Christian, et on vous retrouve entre autres sur le site Renault Info Maison.
Oui, sur renaultinfomaison.com, sur la page Facebook. J'ai beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de contenu aussi. C'est un pure player, comme on dit.
Un pure player.
Vous connaissez mon accent, hein, qui est toujours excellent. Donc, on y retrouve du contenu, et puis peut-être que on refera très vite de la radio à partir de donc de mon site internet et à partir de la page Facebook.
Écoutez,
c'est dans les tuyaux, comme on dit.
C'est tout le bien qu'on vous souhaite, bien sûr, Christian. Et moi, j'irai sur Renault Info Maison pour essayer de progresser dans le bricolage.
Oui, parce que
depuis toutes ces années,
j'ai pas
vraiment beaucoup progressé. Christian. Pourtant, j'ai fait des efforts. Hein,
Oui, mais vos voisins se plaignent. Surtout les nombreuses fuites d'eau que vous avez générées avec votre terrasse. Avec
pas trop les voisins.
Pharaonique.
Oui, bien sûr, oui. Pharaonique, évidemment. C'est le champ de Mars.
Bien sûr.
Bon, Christian, plus sérieusement.
Oui, on va quand même travailler là.
Un petit peu.
C'est bien de dire du bien de soi.
Un petit peu. Mais non, je voulais juste remercier tous les dizaines, voire les centaines de messages qu'on reçoit sur Direct Studio d'auditeurs qui nous font des petits coucous, qui sont un peu tristes de nous perdre. Mais sachez que pour ma part, moi, je reste dans le groupe. Je vais sur BFM Business. Vous savez que le groupe Next Radio TV regroupe donc RMC, BFM TV, mais aussi BFM Business. Il y a aussi RMC Story, RMC Découverte. Et à partir du lundi 4 janvier, je vais changer de crèmerie, comme on dit, et je vais arriver sur BFM Business pour vous présenter tous les soirs une émission qui s'appelle Tech & Co, entre 20h et 22h, où on parlera de tech, voilà, de technologie. J'en suis très heureux, puisque c'est une spécialité.
Pas le bois, vous parliez de tech.
Ouais. Écoutez, si je parle de tech, je vous appellerai.
C'est la technique.
Je vous appellerai pour que vous veniez m'en parler, parce que c'est un peu votre dada.
Un bois qui est menacé.
Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici 8 heures? On va accueillir tout à l'heure un excellent chef d'un excellent restaurant, car j'ai déjà testé. Et, il viendra nous expliquer quelques petites recettes, quelques petites astuces pour Noël.
Oui, on va passer aussi sur les bases. Hein, on va se demander comment organiser ses courses, comment apprécier les quantités. Ouais, rien que quand on fait des pâtes, en général, moi, je me retrouve avec des pâtes pour 8 jours.
Et après, vous mangez tout.
Voilà, et puis après, je mange tout et je grossis, bien que je sois pourtant tout à fait svelte, comme chacun sait.
Exactement.
Voilà, et puis savoir si on peut, l'ordre des préparations, on va parler de tout cela, et puis on va parler des incontournables aussi de Noël, et puis on aura aussi un grand sommelier, un grand monsieur au téléphone, Olivier Poussier.
Il sera au téléphone, donc il ne viendra pas avec ses bouteilles.
Non,
parce que je sais que vous avez fait des pieds et des mains pour qu'il vienne en studio, ça, etc. Ça.
Mais vous voyez, il appartient à la maison la nôtre, et puis c'est un petit peu fermé tout ça en ce moment.
Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Enfin, mais les restaurants sont un petit peu fermés d'une manière générale.
Aussi, hein,
mais on posera la question à Benoît dans un instant, notre invité. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On va évoquer le conseil de l'expert dans un instant aussi. Avec quelle énergie cuisiner, Christian ?
Voilà, j'en profite pour passer en revue les énergies. Et on demandera à notre chef, lui, qu'est-ce qu'il préfère ? Comment il a été formé ? Puisque ça a évolué, les matériels ont considérablement évolué ces dernières années.
Et puis, pour s'acheter beaucoup de foie gras, on parlera... Non, j'allais dire une bêtise, on parlera de crédit, mais c'est pas avec ce crédit-là qu'on achète du foie gras, puisqu'on va parler de l'assouplissement du crédit immobilier.
Voilà, l'assouplissement du
crédit. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, mais il faut quand même faire un peu attention. On verra.
Oui. Des mesures qui étaient assez restrictives pour empêcher le surendettement.
Oui.
Mais là, visiblement, on lâche un petit
peu
du lest.
On lâche un peu les vannes. Donc,
mais on en parlera tout à l'heure. Bienvenue dans ce week-end des experts sur RMC. On est très heureux d'être là avec vous. Et on accueille Mickaël tout de suite. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Mickaël, bienvenue.
Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive,
Mickaël ?
Alors, déjà, je vous remercie de m'avoir pris l'antenne.
Mais c'est normal, ça nous fait plaisir.
Je vous appelle car je construis ma maison via un constructeur. Et au mois d'octobre, ils m'ont fait l'enduit extérieur. Et j'ai une terrasse couverte sur cette maison. Donc déjà, j'ai l'enduit qui s'arrête au niveau du seuil de la porte et du seuil de la fenêtre. Ce qui fait que j'ai l'enduit qui ne descend pas jusqu'en bas de ma terrasse. Donc j'ai une bande de 10 cm de béton.
C'est une bonne chose, ça.
Voilà. Je ne comprends pas déjà pourquoi je n'ai pas de l'enduit jusqu'en bas.
Ah bah pourquoi ? Alors je peux tout de suite vous répondre. Pourquoi vous n'avez pas d'enduit jusqu'en bas ? C'est que si vous aviez un enduit qui descendait jusqu'en bas, quand on a un enduit qui va jusqu'en bas, on a toutes les chances d'avoir des remontées capillaires et que l'enduit sur un mètre, il se décolle. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une technique traditionnelle qui consiste à mettre 30 cm, 50 cm, 60 cm de béton, de mortier en fait, parce que c'est pas du béton, là.
Oui.
Le béton il est derrière éventuellement,
oui.
Donc c'est du mortier, et donc je peux vous dire, c'est du mortier hydrofuge, et donc c'est une bonne chose, voilà.
D'accord, et la deuxième chose c'est que sur cet enduit gratté, j'ai énormément de taches noires sur chaque façade, avec au niveau du côté ouest, j'ai des trous, j'ai des manques d'enduit, donc risque d'infiltration. J'ai les baguettes des fenêtres qui ne vont pas jusqu'en bas, qui ne sont pas du tout régulières.
Ah mais attendez, vous l'habitez cette maison déjà ou pas ?
Non, pas encore.
Donc vous n'avez pas fait la réception ?
Pas du tout.
Eh ben, c'est au moment de la réception que vous allez dire, il y a ça qui va pas.
Alors, donc... j'ai déjà eu des rendez-vous avec le responsable du constructeur de la construction de la maison.
Vous avez un contrat de maison individuelle, un contrat de construction de maison individuelle?
Oui, tout à fait.
Bon, donc de toute façon, alors c'est normal, dans la phase de construction, vous n'avez pas accès au chantier, hein.
Oui.
Donc le constructeur vous fait des rendez-vous pour vous informer, mais il est même pas obligé de le faire, mais donc généralement tous le font évidemment pour satisfaire les envies légitimes de leurs clients. Maintenant, alors vous constatez un certain nombre de choses maintenant, mais vous n'êtes pas encore à la réception, donc là. Vous, à la limite, la maison, vous la connaissez pas, vous la voyez pas. C'est le jour de la réception que là, vous allez faire des réserves et que ces réserves devront être levées progressivement. Vous pouvez garder 5% du prix de la construction pour justement, c'est une façon un petit peu de forcer le constructeur à aller jusqu'au bout de ses obligations. Et puis, ensuite, vous serez pendant un an dans la phase de parfait achèvement, et donc pendant cette année-là, vous devrez demander en tout cas que toutes les on va dire que tout ce qui ne vous paraît pas parfait, par exemple vous me dites des manques d'enduit, des choses comme ça, et pendant toute cette année le constructeur devra procéder aux réparations, aux compléments de construction, voilà.
Et d'accord, et je voulais vous demander par rapport au DTU.
Oui.
Il y a une question esthétique en ce qui concerne la maison.
Le problème des DTU, les DTU, ce sont des documents de bonne pratique. C'est-à-dire, ce ne sont même pas des documents juridiques réglementaires en en soi. C'est-à-dire que, à la limite, votre constructeur, il n'est même pas obligé de respecter les DTU. Ça peut paraître un peu bizarre. Les DTU, hein, c'est les documents techniques unifiés. Ce sont des documents qui sont les règles de bonne pratique qui ont été définies par l'AFNOR et qui sont, l'AFNOR, vous savez, c'est l'Agence française de normalisation, et qui ensuite sont mis en application par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce sont donc des recommandations. Et en quoi ça, à quoi ça sert? Ça sert que lorsqu'il y a un conflit, les assurances, elles, se réfèrent au DTU. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise n'a pas respecté les DTU, elle pourra être plus facilement condamnée par des tribunaux du seul fait que justement les bonnes pratiques n'ont pas été respectées. Alors les DTU, vous n'y avez accès que partiellement. Seuls les DTU touchant à la sécurité sont publics. Les autres, ce sont des documents soumis au droit d'auteur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais qui sont donc la propriété du CSTB, de l'AFNOR et du CSTB, et que vous pouvez éventuellement demander à votre constructeur, mais seuls les professionnels qui les achètent d'ailleurs, qui payent pour les avoir, y ont accès.
D'accord. Et ils m'ont proposé une peinture sur l'enduit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ils vous ont proposé, je pense que dans le descriptif de votre maison, vous deviez voir s'il y avait ou non une peinture. Parce que ce qui peut là paraître curieux, c'est qu'un enduit gratté, il n'a pas besoin d'une peinture. Donc c'est peut-être parce qu'ils s'aperçoivent déjà que leur enduit, il est loupé, qu'ils sont en train de vous proposer une peinture. Voilà, vous dites, moi je ne choisis rien, c'est vous. Hein. Ne prenez pas la responsabilité de dire, oui, moi je veux une peinture, parce que vous n'y connaissez rien, enfin rien, je veux dire, vous n'êtes pas un spécialiste, c'est pas à vous, vous vous en tenez au cahier des charges. Regardez le cahier des charges, comment est-elle enduit? S'il n'y a pas de peinture, vous dites, moi je veux pas de peinture, je veux un bon enduit.
Merci Mickaël, merci beaucoup Mickaël qui nous a appelé au 32-16. On essaiera de reprendre quelques-unes de vos questions d'ici 8h. Christian, il est temps maintenant de retrouver votre conseil.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Christian, vous allez passer sur le grill.
Je vais passer sur le grill, je vais vous parler. Oui, ça... bon. Ça chauffe, hein.
Ah bah écoutez, ça chauffe. Évidemment.
Alors, je dirais que depuis la nuit des temps, évidemment, l'homme fait, et la femme aussi de temps en temps, hein, mais l'homme avec un grand H, fait la cuisine, c'est-à-dire qu'il fait cuire ses aliments. On les fait cuire pourquoi? Bah parce que d'abord c'est meilleur.
Hashtag MeToo, Christian Pesset, vous allez voir.
Parce que donc c'est meilleur quand c'est cuit, et puis surtout c'est plus sain, parce que on s'est aperçu que plutôt que de manger de la viande crue de mammouth, il valait mieux faire cuire le chevreuil, quoi. Hein, c'est quand même un peu mieux. Alors, il y a un certain nombre d'énergies qui sont utilisées depuis, on va dire, depuis la nuit des temps. Hein, et il est évident que le gaz et l'électricité, c'est plutôt récent. Alors, je vais passer rapidement sur donc, ces différentes énergies. Mais d'abord, il y a le bois. Hein, c'est le premier. Alors, très rapidement, on est passé du barbecue, hein, si j'ose dire. Vous savez ce que veut dire barbecue ?
Barbecue. C'était barbe, je sais plus quoi.
Ça veut dire de barbe en queue. Sont les Normands qui, quand ils sont arrivés en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, avaient l'habitude de faire cuire dans un trou, parce que c'est ça le vrai barbecue. On fait un trou, on met du charbon de bois, mm-hmm. et puis on met ou du bois, et puis on met la bête dedans, et on la mettait de barbe en queue.
Et donc, c'est Benoît, d'ailleurs, notre invité. Il a fait un trou dans son resto.
Voilà. De barbe en queue. Et donc, c'est devenu le barbecue.
Et le barbecue.
Bon, je pense sur ça. Le bois, donc. Évidemment, c'est un moyen de chauffage basique, mais il y a eu très vite des cuisinières au bois. Il y en a encore. Et il y a même aujourd'hui des cuisinières au granulé. Ça commence à apparaître. Et puis, évidemment, il y a le charbon de bois. Là, c'est le plus basique pour les barbecues. Mais en ce moment, c'est pas terrible, l'extérieur. Bon, on y reviendra au printemps.
Le bois est un peu humide.
Voilà. Le charbon, la houille, véritablement, a été très utilisé, on va dire très largement au 19e siècle, et pratiquement jusque dans les années 50. Jusque dans les années 50, y compris dans les grandes villes, on montait le seau de charbon. Et c'est pour ça qu'il y a des caves dans presque tous les immeubles, notamment parisiens, mais des grandes villes, parce qu'on stockait le charbon et on montait donc en étage. C'était vraiment pas très commode parce que toutes les maisons n'avaient pas d'ascenseur à l'époque. Le fioul, fioul. Le fioul a servi et sert encore à alimenter un certain nombre de cuisinières. Ça s'est substitué au bois, au charbon, pardon, parce que évidemment c'était quand même plus simple de monter un bidon que de monter des boulets ou de l'anthracite. Le gaz, il a été il s'est généralisé notamment en Angleterre au 19e siècle. Les gazinières sont apparues dans les années 30 plus particulièrement en France dans les années 50, c'est le grand moment des arts ménagers où on présentait donc des appareils de cuisson. Et puis il y a eu très vite le gaz naturel, le gaz d'abord de ville, puis le gaz naturel qui a été à peu près mis partout dans les maisons. Vous savez, il y avait gaz à tous les étages. On voit encore ces petites plaques sur les immeubles anciens.
Ça c'était la classe quand même. Hein. Voilà. Maintenant c'est la fibre à tous les étages. Voilà. Différent.
Et il y avait souvent gaz et eau à tous les étages. Pas forcément et l'eau. Sûr. Et on essayait qu'il n'y ait pas d'eau dans le gaz. Évidemment, ça va.
C'est logique.
Ça va de soi. Il y a eu aussi donc est apparu dans les années 60 le gaz en bouteille, le butane, et donc qui a permis donc d'aller jusque dans les campagnes. Le gaz, c'est une montée rapide en température, c'est une grande précision de température, c'est une grande souplesse. Et puis il y a eu l'électricité. Alors là, l'électricité, ça s'est répandu, si j'ose dire, très vite dans le domaine de la cuisson, avec différents systèmes. Alors, il y a eu quoi ? Il y a eu les résistances dans les plaques et dans les fours, les résistances dans les plaques en fonte. Puis est apparu la plaque vitrocéramique, le foyer radiant. Ça n'a pas duré très longtemps. Pareil, les foyers halogènes. Et puis il y a eu le micro-ondes aussi. Il faut le reprendre dans les modes de cuisson électriques. Le chauffage de la vapeur à l'électricité pour les fours vapeur. Et puis enfin, récemment, l'induction électromagnétique qui tend à se généraliser. Puis ça allie bien des suffrages, parce que c'est très précis. Seul inconvénient, il faut avoir des matériels, des ustensiles adaptés à ce mode donc de cuisson. Bon, voilà à peu près le tour d'horizon hein, des énergies. Notre chef tout à l'heure nous dira lui à quoi il cuisine, s'il a vu aussi cette évolution et quelle est sa préférence.
Exactement, on en parle dans un instant avec notre invité Benoît Gauthier qui est chef du restaurant Le Grand Pan, c'est à Paris, dans le 15e précisément. Et vous n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions. 3216, l'appli RMC Direct Studio sur votre smartphone. On revient juste après la météo que voici.
Madame, je vous remercie beaucoup pour ce frugal repas.
Il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux.
Jusqu'à 8h.
À propos des repas, si vous pouvez accompagner les gentils d'un sanglier ou deux.
Votre maison.
Tu cours où ?
Rien, je dois aller acheter quelque chose.
Acheter quoi ?
De la dinde. Blanc de dinde. Tu connais
nous deux ? Oui, bien sûr. Pierre, dépêchez-vous, je vais rater ma dinde, moi.
Cours.
François Sorel.
À la table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Ah, enfin, un repas normal.
Ah oui ?
Des sangliers.
Aux lentilles.
Christian Pessé.
Un bon repas sans fromage, c'est une belle quina.
7h30 sur RMC. Bon, écoutez, dans quelques jours, c'est Noël. Donc, on va pouvoir festoyer. Après, il y a le 31 qui arrive. Alors, même si, effectivement, on ne pourra pas faire la fête, on va essayer de se faire plaisir quand même au niveau gustatif.
Mais
mon cher Christian.
Mais oui, alors, comme depuis un certain nombre d'années, ou un nombre d'années certains, dans cette période, nous avons l'habitude de faire un sujet cuisine, un sujet qui nous permet un petit peu de rêver et d'avoir aussi des conseils avisés de chefs, de grands chefs. Et nous accueillons aujourd'hui Benoît Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Benoît.
Vous êtes chef du restaurant Le Grand Pan à Paris. C'est dans, donc, disait François, dans le 15e.
Exactement.
Donc c'est vers le parc Georges Brassens,
c'est ça rue Rosenwald.
Rue Rosenwald, bon, bah écoutez, je pense que du coup, vous allez avoir...
Mais Christian, il va falloir qu'on y aille,
quelques-uns,
ces jours.
Bien sûr, quelques-uns de nos centaines de milliers d'auditeurs qui vont arriver, préparer les barrières et le service de sécurité, évidemment.
Avec grand plaisir.
Voilà, donc vous avez un petit accent qui révèle peut-être une origine du sud, on va dire.
Exactement, enfin, de la Corrèze, les portes du sud-ouest.
C'est la porte du sud-ouest, effectivement, donc on va évidemment parler un peu foie gras, je crois que c'est une de vos spécialités.
Mais quel est votre pédigré, Benoît ? Vous êtes passé par quelles grandes institutions et vous en êtes où aujourd'hui ?
Eh bien du coup, moi j'avais bossé avec Alain Dutournier, après j'ai fait Guy Martin au Grand Véfour, j'avais travaillé avec Christian Etchebest au Troquet, et maintenant ça fait 13 ans que je montais le Grand Pan.
Voilà.
Très bien.
Et qu'est-ce qu'on mange au Grand Pan ? C'est quoi les spécialités ?
En spécialité, on est quand même assez branché sur la viande. Et sachant que mon papa était boucher, donc on a les côtes de bœuf, les côtes de veau, les côtes de porc pour deux personnes. Et après, on travaille beaucoup les produits de saison. Là, normalement, on faisait la truffe, on fait les Saint-Jacques, on fait le lièvre à la royale. Donc voilà, on fait vraiment des produits de saison.
Et on peut obtenir vos produits, on peut aller chez vous et vous...
Oui, exactement.
Des, on va dire des plats cuisinés.
C'est ça, on fait des plats emportés. Donc là, on a créé un menu justement pour les fêtes. Et après, on fait de l'emporter pour la fin de semaine.
D'accord. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on va avoir droit pour les fêtes?
Alors, oui, à quoi on va avoir droit? Je sais pas, vous, c'est quoi le plat central? On parle toujours de la dinde, mais il y a sûrement autre chose, non?
Alors, du coup, oui, c'est vrai que la volaille est quand même très prisée. Après, du coup, nous, on est parti sur le lièvre à la royale, qui est un plat quand même très...
Oui.
Après, c'est pas aimé de tout le monde. Donc, on avait fait aussi un cochon de lait cuit en basse température. Et donc voilà, donc on a changé un petit peu de la volaille classique traditionnelle.
D'accord. Alors je voudrais faire un petit point avec des conseils basiques, je veux dire, parce que vous faites saliver, on dit un lièvre à la royale, super, etc. Mais nous, on est chez nous, on fait nos courses, etc. Est-ce que par exemple, vous pouvez me dire tout bêtement comment on organise ses courses, parce que généralement on fait ça au dernier moment, on se retrouve avec plein de bouffe, on sait plus où la mettre parce que la cuisine est trop petite. Comment on s'organise là?
Déjà, je pense qu'il faut arriver à simplifier. Les gens veulent déjà trop compliquer le menu de Noël.
Ouais.
Et je pense qu'il faut arriver à faire un repas simple, essayer d'éviter de faire trop de plats chauds, parce que du coup, qui dit plat chaud dit être toujours derrière la cuisine à faire. Donc,
on n'est pas avec les convives, en fait, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. Donc voilà, essayer de travailler un petit peu en amont pour que derrière, après, voilà, le repas soit un peu plus vite servi. Et les courses, après, voilà, acheter déjà les bonnes quantités, juste ce qu'il faut, et pas faire un repas, je pense, à rallonge, comme on faisait peut-être un peu à l'époque, et faire vraiment le rentrée plat dessert qui va très bien.
Apprécier les qualités. Les quantités, par exemple, c'est pas simple.
Ouais, après maintenant, je pense qu'il faut acheter aussi. C'est bien le moment d'aller voir un peu les commerçants, les artisans, et eux, ils ont un peu l'habitude. Donc, quand vous allez chercher, que ce soit la volaille ou auprès de la viande, vous demandez, vous dites que vous êtes 4, 6, et après, eux, c'est leur métier, donc ils vont bien vous aiguiller. Quoi.
L'ordre des choses, des préparations, parce qu'on a tendance à préparer dans l'ordre du repas, mais est-ce que c'est forcément intelligent?
Non, je pense qu'après, il faut. Donc, si les gens vous faites tout rentrer plat dessert, déjà, vaut mieux des fois préparer le dessert, comme ça, après, ça c'est fait, on l'oublie un peu au frigo.
D'accord.
Moi, je préparais le plat en deuxième, et comme ça, on laisse au chaud. Déjà, d'essayer de faire des fois des purées, de faire des choses comme ça, vous pouvez tenir un peu au bain-marie, vous tenez au chaud, vous faites votre volaille, vous la laissez au four un peu à basse température, juste qu'elle soit chaude, qu'elle cuise plus, mais à 80, 90 degrés.
Ah, quand même, 80, 90. Moi, je crois que c'était plutôt 50. Non, c'est 80, 90.
Ouais, alors, en gros,
il y a le débat des températures, voilà, messieurs.
Comment ça? Tout dépend comment vous l'avez cuit avant. Si elle est vraiment bien cuite, on met à 50 pour garder au chaud.
D'accord.
Après, si vous pré-cuisez un peu au début, il faut la laisser à 100 degrés pour qu'elle finisse de cuire tout doucement.
Parce que ça sèche aussi, hein, la volaille, il faut faire attention.
Ouais,
hein. Moi, j'en ai cramé quelques-unes, comme ça.
Il faut bien arroser.
Dans les cuisinières d'autrefois, il y avait le four, et puis en dessous,
exactement.
Il y avait un réchauffe. On appelait ça un réchauffe plat, d'ailleurs.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Et maintenant, ça n'existe plus dans les matériels d'aujourd'hui, évidemment.
Il y a plus. Bon, après, maintenant, il y a quand même les fours, vous pouvez les gérer quand même pour faire un peu ce qu'on appelle la basse température, et du coup, tenir un peu les cuissons, voilà, entre 50, 80, tout dépend le plat.
Donc Benoît, on vit une période un peu particulière en ce moment.
Oui. Hein,
évidemment, vos restaurants sont fermés, donc vous vous êtes tourné vers les plats emportés, c'est ça,
ouais.
Donc là, vous faites un menu spécial pour les 24 et 31?
Oui, on a fait un menu... Donc, ce qu'on appelait un menu carte avec, donc, on a fait un petit bouillon de volaille avec un tartare.
Ça nous intéresse avec Christian, peut-être qu'on va passer.
Avec plaisir, on vous attend.
D'accord.
Non, on a fait un petit bouillon de volaille avec un tartare de gambas et truffes. On a proposé du foie gras, du saumon gravlax qu'on a fait maison. On a fait des Saint-Jacques. Enfin, voilà, on est resté vraiment sur les produits de saison. On propose de la truffe. Voilà, rester sur des choses assez simples.
Vous savez déjà le menu que vous allez proposer les 24 et 31 ou il y a encore un peu d'incertitude?
Ouais, ça y est. C'est calé, c'est bon.
Ouais.
On attend les commandes maintenant.
Alors, on commande et ça coûte combien un menu complet pour se faire plaisir le 24 ou le 31 par exemple?
Alors du coup en tarif on va être dans les 50 € avec la mise en bouche, le foie gras, le saumon, une petite Saint-Jacques et le plat principal.
Alors justement la mise en bouche. Vous avez dit la mise en bouche? Non, la mise bouche.
La mise bouche.
Ouais, donc qu'est-ce que vous conseillez là? Parce que c'est au moment de l'apéritif ou c'est après l'apéritif et au début du repas?
Là, nous, sur le menu qu'on a fait, on est parti sur une petite soupe pour se mettre en bouche, pour ouvrir l'appétit.
Ouais.
Après, c'est qu'à la maison, ce qui peut être sympa, c'est déjà de se faire une petite tartine avec un peu de foie gras. Voilà, c'est le truc un peu classique. Ou même, là, quand on parlait du saumon gravlax, faire des petits apéros comme ça, ça peut être sympa.
Mais oui, voilà, c'est l'apéro qui est important.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
Ouais. Si je vous appelle, je vous dis, avant mon réveillon, je veux faire un petit apéro, vous pouvez tout me préparer?
On peut tout faire.
C'est top, ça. Donc 50 € le menu.
Ouais.
Il manque plus que le vin finalement après.
C'est ça.
Et après il suffit de réchauffer.
Ouais, c'est ça. Tout est expliqué quand vous venez chercher, on vous explique un peu, mais tout est sous vide et donc après encore une fois vous laissez tout tranquillement faire. Il n'y a pas besoin d'être derrière la cuisine, il y a juste un moment pour envoyer, il faut ouvrir ça.
Bon, question, qu'est-ce que vous allez vous faire
Alors, je vais vous dire, je n'en sais encore rien du tout.
Rien du tout.
Est-ce que je monte on va la dinde.
C'est peut-être Annie qui décide aussi. Annie, oui, franchement, votre femme, hein, parce que moi, je pense que là, vous arrivez les pieds sous la table, couteau, la fourchette. Alors. Qu'est-ce qu'on mange, chérie ?
Alors, le plat principal, c'est quoi ? Parce que la dinde, le chapon, qu'est-ce que vous conseillez ?
Ah, après, pour les incontournables, c'est vrai que le chapon, on reste quand même le numéro un. Après, moi, nous, on est parti sur un peu changer un peu tout ça. Avec,
allez, dites-nous.
Ben, nous, on est parti sur un cochon de lait confit 28 heures en basse température.
Ça, c'est bien. Combien ?
Et, 28 heures.
28 heures dans
à
la
63
cuisine.
63 degrés. Ouais. Alors après nous on a le four mixte, enfin ce qu'on appelle le four vapeur. Et donc on les a mis sous vide avec du thym, du romarin, de l'ail. Donc c'est quelque chose de très parfumé. Et encore une fois, ça c'est une viande que vous pouvez laisser prolonger l'apéro. Vous n'êtes pas timé par rapport à la cuisson. Vous pouvez laisser l'oublier
un peu.
Oui,
parce que on oublie aussi des morceaux qui parfois sont très bon marché. Hein, je pense par exemple à la rouelle de porc.
Ouais.
Hein, ça coûte presque rien là, une rouelle de porc. Et donc on peut la faire cuire comme ça, basse température. Tout qu'est-ce qu'on mettra autour sur son, j'imagine qu'on va mettre dans un plat ou sur
la lèche frite. Dans un plat et après, ou on qu'est-ce change un peu de la pomme de terre classique et là on va partir un peu peut-être sur du saltifi, ouais, sur du topinambour.
Pas 27 heures
de
pomme de terre. Hein.
Ah non, ça vous les mettez sur la fin de cuisson au dernier moment. Ah, ça. Non, on est
mais
d'accord.
Alors, assaisonnement. Là, vous nous dites, je vous amène une rouelle de porc, qu'est-ce que vous en faites ?
Ah ben, du sel, du poivre, du thym, de l'ail et au four.
Et au four, à quelle température ?
Alors,
parce qu'on va pas faire les 27.
Mais on part sur 160 au début, et après, pareil, on peut baisser vers 80, 90, et on le laisse un peu au four, et là, on l'oublie, et ça, il n'y a pas de surcuisson.
Et 6 euros le kilo. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'il y a. Après le chapeau, il y a le côté festif du truc, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses et beaucoup de produits à faire qui sont moins chers.
Pour connaître un peu Benoît, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller quelques fois dans son restaurant, la particularité aussi, c'est la qualité des produits qui fait tout. C'est-à-dire que vous avez vos propres fournisseurs, des éleveurs, évidemment, pour le porc, pour le bœuf, etc.
Ouais.
Et c'est la clé, en fait.
Tout à fait. C'est pour ça qu'après, là, surtout en ce moment, essayer de favoriser un peu les artisans et de trouver un peu les produits en direct et voilà, et après pas forcément d'y mettre vraiment cher sur le produit parce qu'il y a des choses très simples et qui sont très très bonnes aussi.
Bon, voilà, si vous voulez connaître Benoît, sa carte, Le Grand Pan, j'imagine qu'il y a un site, on retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram.
Ouais. C'est Pan sur le bec.
Pan sur le bec.
Ouais, c'est le Grand Pan.
Le Grand Pan.
Voilà, on est à côté
de Pan.
Du parc Georges Brassens, hein, donc voilà. À tout de suite, on revient dans un instant. Benoît, vous restez avec nous. En général, quand on mange bien pour les fêtes, on boit bien aussi.
On boit
Christian.
Bien. Nous allons avoir Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, dans quelques instants.
Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on boit ? Tiens, avec la rouelle de porc, avec le foie gras, tout ça.
On va voir. Est-ce qu'il y a du nouveau en matière de vin ? Est-ce qu'il y a des vins émergents ?
Des vins émergents.
Et je lui demanderai aussi ce qu'il pense des vins bio.
Ah, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Bon, il est un peu tôt, hein, il est 8h-20. Mais écoutez, fermons les yeux, on s'y croit presque. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, c'est la maison sur RMC. Christian Pessé a mis sa serviette autour de son cou. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça y est, il commence à avoir un peu faim.
Pourtant,
Christian.
On n'a pas encore parlé de homard, mais ça viendra parce que quand on mange du homard,
il faut toujours mettre
y a un tablier,
la tiraille. Benoît Gauthier, notre invité, il est restaurateur. Vous pouvez le retrouver au Grand Pan et depuis tout à l'heure, il nous fait saliver. Restaurant dans le 15e arrondissement de Paris, le Grand Pan PAN. Et on évoque ensemble les menus de fête.
Voilà, on a évoqué déjà un certain nombre de choses en matière de repas lui-même. Et puis, nous avons en ligne Olivier Poussier. Olivier Poussier, il a été meilleur sommelier du monde. Il est le sommelier de la maison Le Nôtre. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Bonjour, Olivier.
Alors, j'imagine que vous avez suivi, ce qu'on a évoqué. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau dans le vin ? Parce que vous savez que moi, je suis assez traditionnaliste dans le domaine. Je suis un amoureux du Bourgogne. J'ai d'ailleurs fait des bouquins sur le sujet chez Flammarion il y a quelques années. Alors, c'est quoi ? Il y a des nouveaux vins ou il y a des vins émergents qu'on redécouvre aujourd'hui ?
Bah écoutez, vous savez que la France viticole est un pays complexe au niveau viticulture et que les régions diverses et variées peuvent nous offrir bien sûr, des vins succulents dans beaucoup de régions. Donc, il faut juste avoir une ouverture d'esprit et de se dire que, et moi depuis tout temps, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans la maison Le Nôtre, c'est de mettre à disposition des vins qui viennent de partout. Et je crois qu'effectivement, Christian, vous avez tout à fait raison de le signaler, on peut rester très classique, mais on peut aussi sortir des sentiers battus et partir dans des contrées qui nous offrent des vins succulents.
Alors allez-y, sortez-nous des vins qu'on ne connaît pas.
Oh bah, je regarde par rapport au menu du chef là qui vient d'expliquer. Je vois son cochon de lait. Quand vous voyez son cochon de lait, bon, on peut faire un cochon de lait dans toute région, mais l'association peut être faite sur un vin rouge, même sur un vin blanc opulent, même sur un vin rouge distingué. Par contre, ce qui est intéressant dans sa recette, c'est qu'il l'accommode avec des ingrédients qui nous donnent un renseignement très important, c'est-à-dire le thym, le romarin.
Ouais. Alors là, c'est quoi le vin qui va avec ça ?
Toutes ces saveurs du Sud appellent forcément un vin du Sud. Ouais. Donc dans cette notion d'ouverture d'esprit, moi j'aurais envie de marier, par exemple, je partirais dans les Coteaux d'Aix-en-Provence, chez une vigneronne biodynamiste de qualité, Dominique Ovette, avec Odomène Omed, avec les cuvées améthystes, ouais. Qui est une cuvée très particulière, qui va bien avec une viande blanche telle que le cochon, parce que c'est du cinsault qui domine. Donc le cinsault est un cépage du Sud qui fait des vins très modérés en termes de puissance, avec un poil de carignan et de grenache. Tout ça élevé, ça fait des vins vraiment à la fois sudistes dans l'âme, dans les arômes et les saveurs, et pas trop puissants dans la générosité.
Alors un Cahors, par exemple, ça serait un peu trop puissant.
Un Cahors, on fait appel à un cépage Malbec, qui est un cépage qui a beaucoup plus de mâche, beaucoup plus de matière et une densité tannique plus importante. Alors le tanin joue un rôle sur les protéines, c'est-à-dire il s'oppose au gras du cochon. Après, il faudrait peut-être le prendre sur un millésime un peu civilisé, c'est-à-dire avec un peu d'âge, et qui permette d'avoir des tanins un peu plus souples et plus soyeux. Ouais. Et de ce cas-là, si je choisissais un Cahors sur ce cochon, je partirais sur un Cahors du Château du Cèdre de Pascal Vérague, qui est un vigneron qui est à Vire-sur-Lot, qui fait des vins très distingués sur des deuxièmes et troisièmes terrasses du Lot, et avec des Malbecs très fins, très pulpeux, très soyeux de tanin.
Bon, à consommer avec modération le vin. Vous savez, on est obligé de dire à la radio, hein, parce qu'après on se fait taper sur les doigts. Benoît, le vin, c'est important chez vous ?
Très, très, ouais. Après, ça fait partie du. Voilà, quand on mange bien, on boit bien. Ça fait, ça va de pair. Donc, du coup,
vous êtes tout
à fait d'accord avec ce que monsieur vient de dire.
Olivier Poussier. Et comment vous faites pour choisir vos bouteilles, vos crus, etc.
Nous, après, on a un peu la chance qu'on a beaucoup de commerciaux, de vignerons qui viennent en direct. Parce que de plus en plus, les jeunes, quand même, viennent faire goûter leur vin. Et donc, du coup, en goûtant, en parlant, on voit un peu ce qu'on aime et ce qui va bien avec.
Bien sûr. Olivier, on parle beaucoup ces derniers temps de vin bio. Alors, il y a une mode. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être meilleur un vin bio ou bien
Je pense, Christian, moi-même, je suis très attaché au respect de l'environnement et effectivement faire les vins les plus nets et les plus sains possibles. J'ai effectivement dans ma gamme à peu près 85% de vins issus de cultures biologiques et biodynamiques. Ah oui. Mais je ne suis pas dogmatique non plus. Ce que j'essaye de faire, c'est je m'intéresse à toutes les mouvances. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que le vin, quel que soit son type de culture, doit être respectueux de son terroir et de son environnement. Et il est vrai que j'ai des grandes émotions avec les vins cultures biologiques et biodynamiques. Quand la chaîne, c'est-à-dire de la culture jusqu'à la vinification, l'élevage, est soignée, on peut avoir des grandes émotions avec des vins issus de cultures biologiques.
Mais alors, vous pouvez nous dire, c'est quoi un vin biodynamique ?
C'est de la culture biodynamique.
C'est quoi ?
C'est Rudolf Steiner qui avait mis au point cette méthode culturelle qui nous permet effectivement, qui est intéressante, non seulement dans aucun pesticide, aucun acaricide, pas systémique, pas de produits phytosanitaires.
Et on retourne plus la terre, on fait de la prairie, si j'ose dire, au pied des vignes, c'est ça ?
C'est pas qu'on retourne la terre, vous savez, le labourage.
Oui, on va refaire plus.
C'est des griffages.
C'est des griffages.
Voilà, vous savez, Claude Bourguignon, qui est un agronome extraordinaire, dit bien que retourner la terre de temps en temps en profondeur, c'est pas forcément quelque chose de formidable.
Oui, ça. Patrick Mielan, on a souvent parlé, mais voilà. Je sais qu'il est, il est quand même pour un bon labour de temps en temps. Hein.
Oui, oui. Mais ceci dit, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans la culture biodynamique, c'est le fait qu'il n'y ait aucun intrant. Et puis moi, ce qu'il faut, ce qui m'intéresse surtout, et c'est surtout ça qui est important, sans stigmatiser n'importe quel type de culture, il y a aussi des gens qui font des très beaux vins dans la culture raisonnée intégrée. L'idée, c'est de, il y a du tri, de la sélection à faire.
C'est quoi les bonnes années là, qui peuvent être prises très rapidement ?
Les bonnes dernières années. Oui. Je crois que là, on vit quand même des.
Que des bonnes années.
Oui, 2019 fut une année assez intéressante dans son ensemble sur l'ensemble du vignoble français. avec des fortunes diverses, mais quand même, 19 est un joli dixième. Après, vous avez 2020, cette année, qui a fait des choses intéressantes. Peut-être avec les problèmes d'échaudage et de déshydratation, il y a eu une perte de volume et de quantité un petit peu avec l'ensoleillement. Mais par contre, ça a généré quand même des vins qui peuvent être de qualité. Et puis, bon, 2018, là, c'était beaucoup plus hétérogène parce qu'il y a eu beaucoup de pression de mildiou dans certains vignobles qui ont causé pas mal de dégâts. Mais ceci dit, les résultats finaux sont peut-être intéressants.
Olivier, après, 2020, on va l'oublier, quoi qu'il arrive. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas un bon millésime. On va le laisser tomber.
C'est une année à oublier pour nous, mais pour la viticulture, il y a des choses très intéressantes.
Bon, ben voilà, on achètera une bouteille, voilà, histoire de se faire plaisir.
Merci Olivier Poussier. Et puis, très bonne chance pour la réouverture. On l'espère prochaine.
Éventuel des restaurants.
Et
merci à Benoît Gauthier.
Merci beaucoup.
Voilà,
merci.
Le Grand Pont à Paris dans le 15e. Christian, pour terminer, votre coup de cœur, c'est l'assouplissement des règles de crédit.
Oui, ça a été annoncé.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Ça a été annoncé cette semaine. On avait pu s'apercevoir que les autorités financières avaient nettement durci les règles d'obtention des crédits immobiliers depuis un an. Résultat, une baisse significative des transactions immobilières en 2020, liée à la situation sanitaire, certainement. Mais aussi à cette baisse du nombre de crédits octroyés. Alors, le Haut Conseil pour la stabilité financière, je ne savais même pas que ça existait, fait aujourd'hui marche arrière en adoptant des mesures concrètes d'assouplissement du crédit. Alors, c'est quoi ? C'est la durée d'endettement possible qui va passer de 25 à 27 ans, le taux maximum d'endettement par rapport aux revenus des ménages qui va passer de 33 à 35 % et la marge de manœuvre laissée aux banques de déroger à ces contraintes passera de 15 à 20 %. Alors, il s'agit pour l'instant de recommandations.
C'est des petits pourcentages, mais c'est pas mal finalement.
Bien sûr, ça gagne quand même.
Hein. Ouais.
Il s'agit de recommandations, mais le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui fait partie de ce Haut Conseil, a dit que ça allait passer en obligation. Ça sera une règle à partir au moins du second semestre. Alors, les organisations
professionnelles... À partir du second semestre ?
Oui.
Ah, c'est pas tout de suite alors ?
Si, mais parce que les banques vont l'appliquer. Ou en général, ils appliquent les recommandations, mais ça sera... Une obligation à partir du second
oui, mais peut-être que les banquiers, au début, vont traîner la patte, parce que est-ce que c'est dans leur intérêt, ça aussi?
En ce moment, je pense qu'ils ont quand même aussi besoin de bosser. Hein.
Ouais.
aussi. Hein. Alors, les organisations professionnelles du bâtiment, la CAPEB, la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, mais aussi la FNAIM, évidemment, la Fédération des Agents Immobiliers, saluent la nouvelle avec un enthousiasme certain. Alors, je vais faire à peu près de même, tout en rappelant aux emprunteurs, c'est-à-dire à beaucoup de aux auditeurs que selon la formule consacrée, un crédit vous engage et doit être remboursé, ne l'oubliez pas. Et
ah
que,
bon mais, zut,
Et que près de 30 ans, être endetté sur 30 ans, c'est une grande partie de sa vie.
Ah oui.
Donc il faut quand même y faire très attention. Voilà pour l'assouplissement des règles du crédit.
C'est une bonne nouvelle et c'est là-dessus qu'on va se quitter.
Oui, quittons-nous sur une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est ça. La nouvelle un peu moins bonne, c'est que bientôt, on se retrouvera plus le week-end. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra se réveiller un petit peu plus tard.
C'est ça.
Mais c'est vrai que je vous le rappelle, si vous venez d'arriver chez nous, ce week-end des experts va se terminer. On a encore deux week-ends à passer ensemble. Oui. Et à partir de début janvier, vous retrouverez une matinale commune. Ça sera une grande nouveauté sur RMC. Une grande matinale commune entre 6h et 10h le samedi et le dimanche, entre BFM TV et RMC.
Très bien, et on me retrouvera sur renoinfomaison.com.
Voilà, un excellent site où on retrouve quoi, Christian ?
Eh bien, on peut me poser des questions, exactement comme ici.
D'accord.
On retrouve beaucoup de contenu, 700 fiches pratiques et concrètes. Et puis, des interviews de personnalités du monde de la construction qu'on retrouve aussi sur la page Facebook du même nom, Réno Info Maison.
Christian, et puis, ça ne nous empêchera pas, nous, de vivre notre vie et continuer notre amitié. On ira au Grand Pan.
Bien sûr, on ira au Grand Pan, sans problème.
Voilà. Vous restez avec nous sur RMC dans un instant. La météo, les infos de 8h et on retrouvera Christian Riquia qui sera là pour une heure de forme et de santé. On va parler entre autres des pieds. Et oui, c'est important les pieds.
Ah, c'est le pied, hein.
Et oui, à tout de suite.